Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alors, vous pouvez commencer à chercher dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, Exodus 17. Exode chapitre 17. Vous savez, et il a été dit tout à l'heure par notre frère, parfois le Seigneur semble nous conduire dans une situation impossible. Et il nous paraît qu'il n'y a pas d'issue. Et alors, mais c'est pour nous éprouver. Comme il a dit, le Seigneur parfois nous conduit dans des situations pour nous éprouver, non pas parce que lui a besoin de savoir ce qui est dans notre cœur, mais parce que nous avons besoin de savoir ce qui est dans notre cœur. Parfois, on se fait des illusions sur ce qu'il y a dans notre cœur. Ça vous est certainement arrivé, tout d'un coup, vous êtes sûr d'être calme, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et votre réaction, et vous êtes étonné, vous dites, mais ça fait longtemps que je n'ai pas réagi, ou que je n'ai pas pensé de cette manière, ou que j'ai dit cela, et on est étonné de ce qui reste encore dans notre cœur. Mais quand le Seigneur nous met dans ces situations, ou nous conduit dans ces situations, il a toujours en vue un moyen d'en sortir, même si nous ne le voyons pas, mais lui, il a toujours un moyen qu'il a prévu pour sortir. Donc, Exode chapitre 17, et nous allons lire les premiers 7 versets. Exode 17, et les versets 1 à 7. Il dit, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël, partie du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent, « Donnez-nous à boire, de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Première expérience où les enfants d'Israël vont boire de l'eau du rocher. Il est clair que c'est Dieu qui les a conduits à cet endroit. Il les a conduits dans un endroit où il n'y avait pas d'eau à boire. Et quand il y a 2 millions de personnes, on ne fait pas ça. Hein, même s'il y a 3 personnes, on ne le fait pas. Mais là, il est conduit là, dans un endroit où il n'y a pas d'eau à boire. Dieu les conduit. Vous savez, si on n'a pas cette confiance inconditionnelle en Dieu, on va se dire, mais ou bien il ne sait pas ce qu'il fait, ou bien c'est de la négligence, ou on se demande pourquoi il aurait conduit un peuple à un tel endroit. Ça ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de normal. C'est de conduire quelqu'un dans un endroit où il n'y a pas d'eau à boire, dans un désert. Mais pour ceux qui ont l'habitude de marcher avec le Seigneur, s'ils ont confiance en lui, ils disent, mais bon, s'il conduit là, c'est qu'il a quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a, mais je sais qu'il a quelque chose. Et c'est là où la foi est mise à l'épreuve. Est-ce que je connais l'Éternel et j'ai confiance, même si je ne sais pas où ça mène et ça a l'air de mener dans un cul-de-sac? Ou bien je me dis, mais Dieu, alors là, ça ne va pas. Là, je ne suis plus, je ne comprends rien. Moi, je désiste. Et les deux réactions existent, hein, même parmi les gens qui se disent chrétiens. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, c'est Dieu qui les a conduits. Et ils ont marché toute la nuit. Et ils ont marché, tout d'un coup, ils se trouvent dans une situation où c'est la mer devant eux, la mer Rouge, et derrière eux, c'est Pharaon et son armée. Dit, mais Dieu, comment est-ce que tu fais une telle chose? Tu les envoies dans un endroit, dans une impasse. Hein? Oui, ça paraissait être une impasse. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire. Et tout semble impossible jusqu'au moment où Dieu dit, Moïse, prends ta verge. C'est la verge qu'il avait en tant que berger. Et à un certain moment, Dieu dit, qu'est-ce que tu as à la main? Il a dit, j'ai une verge, un bâton. Il lui dit, donne-moi-la. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous lisez dans Exode 14, eh bien, vous voyez que ça devient la verge de l'Éternel. Vous savez, c'est pas... Quand c'est entre les mains d'un homme, c'est un bâton. Quand c'est entre les mains de Dieu, ça devient puissant. Et là, Dieu dit, prends ta verge, va, frappe les eaux. Et lève la verge au-dessus des eaux, de la mer. Et puis tout d'un coup, ça s'est partagé. Ils ont traversé. Et finalement, c'était un piège plus pour l'armée de Pharaon que pour les enfants d'Israël. Dieu les a conduits. Mais vous savez que ce passage de la mer Rouge sera pour les enfants d'Israël pendant plusieurs siècles, jusqu'à l'exil en Babylone, ça sera leur référence. Le Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge. Vous savez, quand Dieu nous fait vivre une expérience pareille, ça reste avec nous une référence. Je sais que Dieu prend soin de nous, prendra soin de nous. Il l'a fait, ça devient une référence. Et donc, heureusement que Dieu les avait conduits dans cet endroit, dans cette situation impossible, et qui est intervenu avec une délivrance extraordinaire. Il était impossible de penser autrement. Il nous est même dit, c'est intéressant de voir dans Exode 14, que lorsque vous avez les enfants, les pharaons, quand il a vu dans quelle direction il est parti, il a dit... Ces pauvres esclaves, ils ne savent pas où ils vont, et on va les avoir. Et lui, déjà, il se frottait les mains. Mais la chose a changé. Vous savez, quand c'est Dieu qui conduit, on peut lui faire confiance. Et donc là, les enfants d'Israël se trouvent dans un désert, pas d'eau à boire, c'est trop tard pour aller ailleurs. Et puis il y a eux, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les troupeaux, tout est là. Hein. On a l'impression, on aurait tendance de croire, et trop souvent nous avons cette tendance de croire que Dieu n'est pas là, ou qu'il est négligent, quand nous nous trouvons dans une situation où l'issue est impossible. Et même de nos jours, hein, cette situation serait un gros problème. Hein. Déjà, on entend parler de ces camps de réfugiés où il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Et ça, c'est avec les moyens d'aujourd'hui. On a des moyens de transporter de l'eau, on a toutes sortes de choses. Il n'y avait pas ça à l'époque. On a cherché querelle avec Moïse, comme si c'était lui qui les avait amenés. Mais lui, il ne faisait qu'exécuter les plans de Dieu. Et Moïse va à Dieu et dit, Dieu, tu sais, encore un peu, et puis il me lapide. Vous savez, parfois l'homme peut devenir vraiment pas raisonnable. Tu es arrivé jusque-là avec Moïse, et Moïse, c'est ton seul espoir de sortir de là, et tu vas aller le tuer. Vous savez, des fois, on a des raisonnements pas possibles. Et il arrive souvent des gens et se disent, moi, là je ne comprends plus rien, écoute, je laisse tomber Dieu. Mais c'est aussi un manque de raisonnement, d'être raisonnable, de dire, je ne peux aller nulle part avec Dieu, et là, en plus, je l'abandonne, je le raye de ma vie. Voilà, plus Dieu, je me débrouille. Mais ce n'est pas raisonnable, c'est comme l'enfant qui dit, moi, papa, non, je n'ai pas confiance, mais tu vas aller où avec sans papa? Peut-être il n'est pas tout ce que tu voudrais, mais sans lui, tu n'iras nulle part. Ils sont là et ils ont envie de tuer Moïse. C'est tellement encore aujourd'hui. Et combien de fois même nous, à titre individuel, nous avons essayé, nous avons eu la même logique. Alors, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu, je ne lis plus la Bible. Alors ce sera encore pire pour toi. Continue, tu as besoin de lire encore. Et les enfants d'Israël ont commis la faute grave. Et Moïse leur dira, mais pourquoi tentez-vous l'Éternel? Vous vous rappelez quand Jésus était tenté, il y a un moment où Satan lui met dans une situation et lui dit « Tu ne tentiras point l'Éternel ton Dieu. » Et ça c'est tiré de Deutéronome chapitre 6. Il dit « Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Tu n'es pas là, ce n'est pas toi Dieu et c'est lui qui doit te servir. C'est lui Dieu. Et tu lui fais confiance. » Mais tu ne doutes pas de lui. Donc la tension est là. Les gens sont pressés par la soif. Et je ne sais pas si vous avez vraiment eu soif un jour. Bon, des fois on a soif, mais ce n'est pas vraiment la soif. La soif, vous avez deux jours sans boire. Mais la pression de la soif, et puis pas d'issue, et Moïse, et tout cela, et la tension devient très forte. Et là, Dieu dit, Moïse, prends quelques anciens et puis va avec ta verge et tiens-toi sur le rocher. Le rocher d'Horeb, le gros rocher là. Tiens-toi là, je me tiendrai sur le rocher et tu frapperas le rocher et de l'eau coulera. Et il fallait que ça coule en abondance. Et puis surtout, vous savez, si vous avez une foule pareille et puis l'eau ne coule pas avec abondance, vous allez avoir de la bagarre. Donc il fallait que ça coule pour que très vite l'eau arrive à tout le monde. Vous connaissez les mouvements de foule. Alors et Moïse va et il se tient sur le rocher, il va sur le rocher, il prend sa verge, il frappe le rocher et l'eau commence à couler. Écoutez, vous et moi, vous savez qu'un rocher n'a pas d'eau. Un rocher, ce n'est pas un gros ballon rempli d'eau. Et puis, souvent, il le crevait et puis ça coule. Un rocher, des fois, on va dans les montagnes, on voit une source, et puis il y a un rocher et puis il y a une petite fente. Mais l'eau ne vient pas du rocher, l'eau passe. Parce qu'il y a la fente, l'eau vient et peut traverser et sort là, apparaît. Mais le rocher lui-même ne contient rien. Mais là, il frappe le rocher, l'eau coule. Et nous dit dans ce chapitre 17 et au verset 7, il nous dit « Et il donna à ce lieu le nom de Massa Meriba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» La question c'était « Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là ?» S'il est là, tout va bien. S'il n'est pas là, c'est la catastrophe. Et dans ces situations impossibles où Dieu nous conduit, eh bien finalement, c'est la première question qui vient à l'esprit. L'Éternel, est-il avec moi ou ne l'est-il pas? Souvent, nous avons les yeux sur l'impossibilité, et puis on voit les complications, et puis si ça ne s'arrange pas tout de suite, après c'est les dettes, et puis après je n'ai pas le travail, et puis je n'ai pas l'œil, et puis la voiture est cassée, et puis des fois, ça, vous savez, des fois ça devient gros, hein. Mais la question, c'est pas. Ça s'emballe, et je sais parce que je l'ai déjà fait. Mais après, il faut se dire, mais l'Éternel, est-il avec moi ou pas? C'est ça la question. C'est là la première question. Et c'est ce que Jésus a voulu, ce que Dieu a voulu montrer tout de suite, c'est que je suis là. Je suis là et je peux répondre aux besoins. Et s'il est là, ça suffit. S'il est là, ça suffit. En fait, c'est pas le rocher qui a donné l'eau, c'est l'Éternel qui était sur le rocher qui a donné l'eau. Les gens ont vu un rocher. Et ils avaient tellement soif qu'ils n'ont pas posé trop de questions. Si c'était possible, pas possible, l'eau a coulé, ils commençaient à boire. Mais réflexion faite, c'était l'Éternel sur le rocher qui a pourvu l'eau. Regardez avec moi dans Nombre chapitre 20, donc un peu plus loin dans votre Bible, Nombre chapitre 20. Et là, nous avons une autre situation où ils vont boire de l'eau du rocher. Mais ils vont boire de l'eau du rocher, mais d'un autre rocher. En tous les cas, c'est ce qui semble être. Donc, Nombre 20, et je lis à partir du verset 1. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. » Donc Marie, la sœur de Moïse. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figues, ni vignes, ni grenadiers, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation et tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge, et sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Je m'arrête là. On a une situation qui, sur pas mal de points, ressemble. C'est Dieu qui avait conduit. Et ça arrive beaucoup plus tard. Et Dieu a conduit le peuple ici. Et dans un lieu désert, le peuple l'appelle le méchant lieu. Ils appellent ce lieu aussi un lieu où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Bon, c'est sûr que s'il y avait de l'eau à boire, tout le reste serait là. Hein. C'est l'eau qui fait la différence. Et encore une fois, bien sûr, on se prend à Moïse et son frère Aaron. Et eux font ce qu'il faut faire. Ils vont aller consulter Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toi qui nous as conduits là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toi. Et on sait que là, Dieu suggère encore le rocher. Il a dit, on va aller faire boire du rocher. Bon, c'est sûr que dans la région, il n'y a que des rochers. Hein. J'ai visité la Palestine, il y a des rochers partout. Donc ça ne manque pas. Mais le rocher, mais ils sont loin du Sinaï, là. Ils sont carrément ailleurs. Ce n'est plus le même rocher. Il dit, le rocher. Et physiquement, ce n'est pas le même rocher. Mais l'Éternel va se tenir sur ce rocher aussi. Mais cette fois-ci, vous avez remarqué que Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Il n'a pas dit frappe, il a dit parle au rocher. Mais Moïse, même s'il était l'homme le plus patient du monde, hein, comme il nous dit ailleurs, mais là il s'est énervé, et il s'est fâché, il a dit, bande de rebelles, encore vous. Et alors il frappe, comme la dernière fois, et puis il n'y a rien. Hein, j'imagine comme ça, moi. Et puis, l'eau est sortie quand même. Dieu a honoré, parce qu'il s'honore lui-même. Il n'honore pas à Moïse, il s'honore lui-même. Parce qu'après, il parlera à Moïse. Vous voyez le verset 12, il dit à Moïse, il dit, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Dieu était, pour le moindre qu'on puisse dire, déçu par Moïse. Il dit, je t'ai dit de parler et tu as frappé. Et l'eau est sortie. L'eau a étanché la soif du peuple, des animaux, des troupeaux. Mais Moïse a été désobéissant. La première fois, Moïse devait frapper le rocher, donc en fait frapper l'Éternel qui se tenait sur le rocher. Et la deuxième fois, il devait parler à l'Éternel qui était sur le rocher. Et la première fois, Moïse devait montrer au peuple, l'Éternel est présent, il peut pourvoir. Et la deuxième fois, il devait leur dire, vous savez, vous pouvez parler à Dieu, il peut entendre et répondre. Moïse a un peu faussé la chose. Mais Dieu pourvoit. Dieu, deux fois, Dieu conduit dans des situations et il pourvoit. Et il pourvoit suffisamment. Et vous savez, maintenant nous allons regarder dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que l'apôtre Paul nous rappelle que l'Ancien Testament n'est pas là juste pour avoir le récit des origines du peuple juif. Parce que là, pourquoi pas savoir les origines d'autres peuples aussi, hein ? Nous, ça nous intéresserait de voir d'où viennent les Gaulois. Pour d'autres, ça les intéressait de savoir d'où viennent chacun selon ses origines. Quelles sont mes origines ? Quelle est l'histoire, hein ? Qu'est-ce qui se passait avant qu'on écrive l'histoire ? Et puis après, il y a eu des peuples qui ont été tellement maltraités qu'ils n'étaient pas en état d'écrire leur histoire. Hein, parce que c'est toujours le dominant qui écrit l'histoire. Il l'écrit à sa manière et la victime des situations n'est pas en état d'écrire son histoire. Et donc, mais l'Ancien Testament n'est pas là pour qu'on sache quelle était l'histoire du peuple juif. Mais plutôt, et c'est ça que quand vous lisez l'Ancien Testament, si vous lisez strictement l'histoire, vous dites, bon, je lis leur histoire, pourquoi pas lire une autre histoire aussi. Mais lorsque vous lisez l'histoire, si vous cherchez à voir comment Dieu intervient dans la vie de ces hommes, hein, c'est pas une question de voir comment ils se comportent, vous allez être déçus. Mais si vous voyez comment Dieu réagit et agit et intervient et pourvoit et patiente et persévère, avec les hommes, là, ça nous rassure. Parce que finalement, je les vois et puis je dis, oui, ils sont pareils que moi, hein. Ils ne sont pas meilleurs. Même s'ils s'appelaient peuple de Dieu, ils ne sont pas meilleurs que moi. Et si Dieu a persévéré avec eux, il a pourvu pour eux, il les a gardés, il les a préservés, eh bien Dieu pourra me garder, me préserver. Et regardez, vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et regardez le verset 6, il dit « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et vous lisez le verset 11. Verset 11 dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est pour notre enseignement. C'est pour ça qu'on a fait appel, on l'a lu ce matin dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, nous voulons recevoir instruction pour nous-mêmes, pour nous, à notre époque. Une première leçon que nous tirons des récits auxquels nous nous sommes intéressés, là, les deux expériences de l'eau, du rocher, c'est que même si tous ont bu, ça ne veut pas dire que tous ont cru. Hein, regardez, maintenant je vais lire 1 Corinthiens 10 et je lis les premiers 4 versets. Dit frère, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé du même aliment spirituel, donc la manne qui descendait chaque jour, qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, et ils périrent dans le désert. Première chose qu'on remarque et qui nous fait remarquer, c'est que, oui, tout ce peuple, tout le monde a mangé la manne, tout le monde a bu de l'eau du rocher, tout le monde a traversé la mer Rouge, tout le monde a vu le tonnerre et tout ça sur le mont Sinaï, tout le monde a vu Moïse intervenir combien de fois, tous ont vu. Mais est-ce que tous ont cru? Non. Parce que justement, il a dit, c'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan. Hein, il nous dit même dans Hébreux chapitre 3, il nous dit qu'ils ne sont pas rentrés parce qu'ils n'ont pas cru, à cause de leur incrédulité. Chapitre 3, verset 19. C'est à cause de leur incrédulité qu'ils ne sont pas entrés dans le pays. Vous savez, ce qu'on peut tirer le jour, on peut avoir une salle remplie de personnes. Tous disent, oui, j'aime le Seigneur, ça me fait du bien, j'aime aller à l'église, j'aime lire la Bible, j'aime prier, j'aime adorer, tout ça, ça me fait du bien. Mais ce n'est pas parce que tous nous buvons de cet enseignement, ce n'est pas parce que tous jouissons d'un certain langage. J'aime bien être là, c'est ensemble, on est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et tout cela, et c'est agréable. C'est pas parce que tous, ça ne veut pas dire que tout le monde croit. Tout le monde a la foi qui sauve. Le fait de jouir de cette bénédiction générale de la grâce de Dieu qu'il déverse sur tous ceux qui s'approchent de lui, ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Et tous ces gens, ils pouvaient, une minute, être sur le point de tuer Moïse, et puis une minute plus tard, parce qu'il y avait de l'eau, eh bien, gloire à Dieu, alléluia, hein, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, que c'est aussi rapide, hein, ils passent de l'un à l'autre très rapidement. Pour vous donner exemple, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un texto. Et puis comme j'étais pris toute la journée, j'étais même pas ici en France, j'ai pas répondu tout de suite. Et le lendemain matin, je reçois un texto, ouais, tu t'intéresses pas à moi, tu veux pas me répondre, et ben écoute, je veux plus te voir, je veux plus te parler, tout ça. Comme ça, juste le lendemain. Bon, j'écris, hein, quand je peux, hein, donc un jour plus tard, j'écris, je dis, écoute, voilà, j'étais pris, je pouvais pas répondre. Il n'y a pas de problème, continue. Mais vous savez, et vous avez eu cette expérience aussi, quelqu'un pour un quelque chose, tout d'un coup, ils interprètent, ils prennent travers, et puis ils vous barrent, ils vous traitent de quelque chose, ils pensent que... Et puis vous pouvez avoir fait de belles choses pendant longtemps, et puis tout d'un coup, il y a un truc, et puis tout d'un coup, vous savez, ça arrive tout le temps, mais ça arrive à Dieu tous les jours. Et le pire, c'est que nous le lui faisons. Hein, ce que les autres le fassent, c'est une chose, mais c'est moi, je le fais. Hein? Dieu, j'ai prié, Dieu, j'ai demandé, tu n'as pas donné, je ne te parle plus, je ne rentre plus à l'église. Il y a plein de gens qui ne vont pas à l'église justement à cause de ça. Mon papy, il était en train de mourir, je t'ai demandé de le sauver, tu ne l'as pas sauvé, ben, je ne te parle plus. Mais ça, c'est comme l'enfant qui dit, moi, maman, tu ne m'achètes pas le vélo, eh ben, je ne mange plus. Ah ben, c'est qui le perdant? Elle peut vivre sans ton vélo, mais toi, tu ne peux pas vivre sans son repas, hein. Et Paul nous dit que ce rocher, et c'est extraordinaire, il dit ce rocher qui les suivait. Ah, qui les suivait, le rocher qui les suivait. Mais non, c'était un rocher là, c'était un autre rocher là-bas. Oui, mais ce n'était pas ces rochers physiques qui leur donnaient de l'eau. Mais c'était le rocher qui les suivait et disait ce rocher, c'est l'Éternel qui se tenait sur le rocher qui était le rocher. Et dit, et ce rocher, c'est Christ. Et Christ peut nous suivre, peu importe les situations où on va, si Christ est avec nous, tout est là. Il dit ce rocher qui les suivait, c'était Christ. Pas le rocher physique, mais le rocher spirituel était Christ. Et vous savez, certains ont vu que l'eau avait été pourvue. Mais bon, une fois qu'ils ont bien bu, merci, puis continuent leur chemin, jusqu'à la prochaine fois qu'il n'y a pas d'eau. Ah, il n'y a pas d'eau, c'est ça. Et puis après, Dieu pourvoit. Ah, merci. Et puis après, ils continuent. Et vous savez, et eux, c'est la même chose chaque fois. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est la même réaction, les mêmes pensées, ils pleurent, ils n'ont rien tiré. Aucune leçon. Vous connaissez des chrétiens comme ça? Il y en a certainement plus qu'on ne pense. Et je ne veux pas donner des noms parce que je risque de donner le mien. Mais le truc, c'est que si je tire pas de... Si je pense même pas, je réfléchis même pas. Bah, le rocher, bah oui, il a pourvu, heureusement. Hein, heureusement qu'il a pourvu, hein, heureusement pour lui, hein, parce que sinon j'étais fâché. Ah bon? C'est comme ça que tu penses de Dieu? Alors que Dieu, l'Éternel, se tenait sur le rocher et il a été frappé pour toi, pour te donner la vie. Ils auraient dû s'arrêter une fois avoir bu, pouvoir se détendre, il n'y a plus la tension de la soif. Et ils ont été dit, mais c'est quand même étonnant, hein, comment l'eau a coulé de là? L'Éternel a pourvu. Et puis la deuxième fois, l'Éternel a pourvu. Eh bien alors, je n'ai plus rien à craindre, hein, même si on se trouve dans un désert, Dieu pourvoira toujours. Parce qu'il l'a fait une fois, il l'a fait deux fois, il pourra le faire trois fois. En français, on dit jamais 203. Il y a peut-être une raison, hein, c'est pas juste c'est un dicton, c'est basé sur quelque chose. Mais avec Dieu, c'est pas seulement Dieu, deux fois 103, mais on pourrait 4, 5, 6, hein, Dieu est le même. Est-ce que, quand je me regarde, est-ce que je vois que chaque fois que je me trouve dans une certaine situation, je réagis de la même manière, j'ai pas fait de progrès? Eh bien, ça veut dire que je ne me suis pas arrêté pour tirer les bonnes conclusions la dernière fois. Et j'ai traversé une épreuve, Dieu m'a gardé, mais je n'ai pas fait de progrès. Et il a besoin de repasser la même épreuve. Hein, on doit repasser le bac parce qu'on ne l'a pas réussi la première fois. Eh bien, parfois, il y a des épreuves dans la vie aussi. On le repasse la deuxième fois parce qu'on n'a pas appris. C'est tout. L'épreuve n'a fait que révéler qu'il n'y avait rien là. Tous ont bu, mais tous n'ont pas cru. Et il arrive aussi dans une église, on peut tous être là, et tous jouissent, et ça apporte, j'aime bien, ça m'apporte, ça m'a remis un peu les idées, j'aime bien être là avec ces gens-là. Mais est-ce que j'ai cru? Oui, j'ai bu de la même eau, mais est-ce que j'ai cru? Et ce ne sont que ceux qui croient qui entre dans la terre promise, qui entre dans la vie éternelle. Une autre chose que nous voyons, c'est que, vous vous rappelez les détails, la première fois Moïse a frappé, la deuxième fois il devait parler. Jésus-Christ est ce rocher spirituel. Vous savez, il a été frappé une fois aussi, sur la croix du calvaire. Et le sang a coulé. Et ce sang qui a coulé, c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Il a été frappé. Frappé de la lance du soldat. Et le sang qui donne la vie a coulé. Mais pour ceux qui savent comprendre, sinon ceux qui ne savent pas comprendre, eh ben, voilà, le christianisme a fait du bien dans le monde. Le vrai christianisme, bon, il n'y a pas tout ce qui a été fait au nom de Christ est bon, mais ce que où Dieu a approuvé, ça a été bon. Le respect de l'être humain, la recherche, l'amour entre nous, ça c'est des principes du christianisme. Après, il y a eu des guerres, il y a des choses, moi je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au nom de la croix qui sont vraiment, où Dieu n'a rien à faire. Et Satan, il aime bien mettre les choses sur le compte de Dieu quand c'est mal, pour que les gens se détournent de lui. Alors ne nous laissons pas duper. Mais Jésus a été frappé. Et dans Hébreux 9, verset 26, il dit « Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois, parlant de Jésus, pour abolir le péché par son sacrifice. » Donc, comme le sacrifice a été fait une fois, il a été frappé une fois, il a dit « C'est plus nécessaire de frapper. » Et donc, nous n'avons pas à avoir Et comme certains ont, ils ont un autel dans leur église. Et puis, après, ils ont un pain sur lequel qu'ils bénissent, qui devient réellement le corps de Christ. Ils ont du vin qu'ils bénissent, qui devient réellement le sang de Christ. Ils reconstituent Christ et ensuite ils le sacrifient sur l'autel. Non, il a été sacrifié une fois, on n'a pas besoin de le répéter chaque fois qu'on se retrouve. Maintenant, Christ est mort et il est ressuscité. Maintenant, lorsque nous venons à lui, il n'y a pas besoin de frapper ni une fois ni deux fois, mais de parler. Il dit, maintenant, vous pouvez parler. Et Jésus dit, si quelqu'un demeure en moi, eh bien, vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. En Jean chapitre 15, verset 7. Il dit, si vous demeurez en moi et vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en lui, dans sa parole, dans sa pensée, vous n'aurez que des pensées qui conviennent et qui sont en harmonie, qui sont synchronisées avec ses pensées à lui, parce que naturellement, nos pensées ne sont pas ses pensées, et nos voix ne sont pas ses voix, Ésaïe 55. Mais il dit, mais si nous demeurons en lui, eh bien, nos pensées sont alignées sur ses pensées, et nous désirons ce qu'il désire. Et vous savez, en tant qu'enfant, j'avais vécu toute ma vie avec mes parents, hein, avec mon père. Je connaissais bien. Il y avait certaines choses, avant même de demander, je savais que c'était non. Et puis il y avait certaines choses que je savais que je pouvais demander, et ce serait toujours oui. Bien sûr, mon fils. Et puis il y avait d'autres trucs, c'était, bon, attends un peu. Vous savez, on demande déjà le permis de conduire à 10 ans, non, il dit, attends un peu. Mais il y a d'autres choses. Bien sûr qu'il répond. Parce que je le connaissais, il me connaissait, et il y avait des choses, c'était juste. Demander, c'était comme juste lui dire, écoute, j'ai un besoin, il dit, oui, je sais, j'ai déjà prévu, va dans le frigo, il y a ce qu'il faut. Il avait déjà fait les courses. Vous savez, c'est ça la relation qu'on veut avoir avec Dieu. C'est cela qu'il a prévu pour nous. Alors, qu'est-ce que je vois? C'est que Dieu a éprouvé ce peuple. Il l'a éprouvé en le conduisant dans un lieu où il n'y avait pas d'eau à boire. Il aurait pu trouver, hein, des endroits à boire, certainement. Il se débrouillait toujours. Mais là, délibérément, il les a conduits dans un endroit où il n'y avait pas d'eau à boire. Mais c'était finalement, c'est pour faire ressortir un besoin, qu'ils se rendent compte que finalement, ils ne sont pas vraiment conscients de sa présence. Ils n'ont pas foi en lui, ils n'ont pas confiance en lui. Et c'est étonnant les pensées qu'ils ont pu avoir et les réactions qu'ils ont pu avoir alors qu'ils s'appelaient le peuple de Dieu et qu'ils offraient des sacrifices à Dieu et tout. Et il est bon pour nous aussi, de temps en temps, le Seigneur nous fait passer par des moments difficiles, rien que pour que nous puissions, pour faire remonter ce qu'il y a vraiment dans notre cœur et pour qu'on prenne conscience de notre réel besoin. Et vous êtes toujours dans 1 Corinthiens 10, alors je termine avec le verset 13. Il dit, aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qu'il n'était humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. C'est exactement ce qu'il a fait. Il les a conduits à une situation, eux ne voyaient pas l'issue, mais lui, avant de les faire pénétrer dans cette situation, il avait déjà prévu. Vous savez, la plus grande situation impossible dans laquelle Dieu nous a laissé aller, c'est la situation de la chute dans le péché. L'être humain est tombé dans le péché, et là, il n'y avait pas d'issue. Là, on ne pouvait plus ressortir tout seul. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ a prévu mourir sur la croix dès avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prévu Jésus-Christ et prévu la mort de Christ avant que l'homme ne pêche, le premier homme ne pêche dans le jardin d'Éden. Mais pendant un temps, ça a semblé être une situation impossible. Mais Dieu pourvoit. Nous pouvons faire confiance à lui, c'est digne de lui, C'est classique chez lui. Dieu pourvoit. Nous pouvons lui faire confiance. Faisons-nous confiance. Sommes-nous confiants, sommes-nous sûrs qu'il est présent et que s'il est présent, il est en mesure de pourvoir et prendre soin de nous. Il nous éprouvera, il permettra certaines épreuves dans la vie juste pour nous rassurer ou pour nous rendre conscients de notre besoin. Mais Dieu est fidèle. Il a fait couler l'eau, non pas du rocher physique, mais du rocher spirituel, Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons la vie. Et la vie coule de son côté. Le sang versé nous donne la vie éternelle. Alors si vous n'avez pas encore étanché votre soif spirituelle, eh bien tournez-vous vers lui, vers sa croix, et dire « Tu as été frappé, je veux boire de cette vie qui découle de toi. Je veux la vie éternelle. » Et ensuite, je me relève et je peux marcher avec lui. Parler, ça suffira pour obtenir ce dont j'ai besoin. Cette vie de prière, cette communion avec lui. C'est la beauté de ce que la Bible nous présente. Ce n'est pas une religion, c'est un mode de vie qui est tout à fait compatible avec les attributs de Dieu. Prions. Notre Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour tout ce que tu as déjà pourvu. Seigneur, le comportement des enfants d'Israël nous ressemble tellement. Et ton comportement avec eux ressemble beaucoup aussi à ton comportement avec nous. Et il nous rassure. Et Père, nous te prions de nous aider maintenant, de prendre soin. Tu connais notre cœur, est-ce que nous sommes seulement ceux qui boivent, mais ensuite continuent leur chemin, ou est-ce que nous sommes de ceux qui boivent et puis qui te découvrent et qui trouvent en toi la vie. Père, c'est toi qui parles à chacun. Et tu es un Dieu personnel et conduis chacun vers ce dont il a besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et que chacun, tout seul, avec son cœur et ses pensées, voyez ce que le Seigneur a pu vous dire à travers tout cela. Amen. Je vous propose un cantique. Par la foi, nous marcherons. Le 392. 392.